I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
Et on est le 27 ou 28 juillet, quoi. Donc, on a fait l'aller-retour, on a signé les papiers, on a fait le dossier et on a déménagé en 2 semaines. On a tout quitté en 2 semaines. On a vendu tous les meubles. On a loué les camionnettes de location. Mmh. On a tout mis dedans et on est venu ici. Et voilà, c'était parti.
Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que votre rentrée se passe en douceur. Nous commençons sur les chapeaux de roue, puisqu'aujourd'hui, je rencontre Elisa Gallet, plus connue sous le pseudonyme Edieucréa sur Instagram, un compte suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes. Maman de 3 enfants, véritable couteau suisse, elle alterne ses journées entre la communication digitale, le développement de Maison Sauge, son entreprise d'infusion bio, la rédaction web et la création de contenu. Il y a 3 ans, elle quitte Paris pour le Pays Basque avec ses 3 enfants et son compagnon. Un changement soudain, mais qu'elle ne regrette absolument pas. Elle raconte ici ses premiers pas à San Francisco, son parcours dans le digital, et donne de précieux conseils sur la communication digitale pour ceux qui veulent développer leur projet à l'aide des réseaux. Mais elle partage aussi son changement de vie pour un quotidien plus doux au bord de l'océan et son besoin de ralentir. J'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Elisa devant les grandes plages de la côte basque, et je vous souhaite une belle écoute.
Écoute, merci beaucoup Elisa pour ton
merci
temps.
À toi.
Merci de m'accueillir chez toi. Que j'ai le luxe de pouvoir passer par ici. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oui, alors j'ai toujours beaucoup de mal à me présenter parce que j'ai rien de très formel sous le coude, mais je m'appelle Elisa, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants et je suis un peu pluridisciplinaire en termes de profession puisque j'ai plusieurs casquettes. Je m'occupe à la fois de communication digitale en tant que freelance pour différentes entreprises. Je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Maison Sauge. Mais je peux aussi, par exemple, faire du rédactionnel web pour certains médias. Je peux faire des photos. Et je suis aussi plus connue en tant que créatrice de contenu avec mon compte qui s'appelle Edieucréa.
Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je t'ai rencontrée, je pense comme beaucoup de gens. Et ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, et c'est pour ça que je voulais t'entendre sur la bascule, c'est qu'effectivement, tu n'as pas toujours eu toutes ces activités, tu les as montées progressivement, pas forcément tout en même temps. Et surtout, avant, tu avais aussi un autre job dans une autre ville. Est-ce qu'on peut peut-être faire un focus sur ton parcours, sur toi, où est-ce que tu commences, quel type d'études tu fais?
Oui, d'accord.
Où est-ce que tu grandis?
Alors, j'ai fait des études de lettres modernes parce que je pense que je n'ai pas bénéficié de la moindre orientation après mon bac et que j'ai fait un bac littéraire. J'étais naturellement, j'avais des facilités dans tout ce qui était littéraire, donc j'ai fait un peu la fac de lettres comme ça. J'ai financé la fac de lettres en étant vendeuse dans des boutiques de vêtements. Et à un moment donné, je me suis retrouvée l'année de maîtrise en me disant qu'est-ce que je vais faire maintenant après? Est-ce que je continue sur un parcours long, mais dont les voies, on le sait, en lettres sont quand même ultra bouchées, si ce n'est étroites. Et il se trouve que j'en avais un peu marre, parce que c'est difficile d'être aussi jeune et d'allier études et job à plein temps. Hein. Et j'en avais un peu marre, j'avais envie de gagner un peu plus de sous parce que bah, ça faisait quand même des années que c'était difficile financièrement parlant en tant qu'étudiante et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, je bosse. Et les gens pour lesquels je travaillais à l'époque m'ont très rapidement proposé de devenir responsable d'une de leurs boutiques. Et bon, ça représentait quand même pour une très jeune femme un gros salaire et tout. Moi, ça me permettait de souffler un peu, donc j'ai dit oui. Et puis, donc à l'époque, je faisais mes études à Nice. Et en fait, Nice me plaisait beaucoup en tant qu'étudiante, parce que c'est une ville qui est très agréable en tant qu'étudiante. Mais lorsque je me suis retrouvée en tant que jeune salariée, à Nice, sans plus du tout avoir le côté de cette vie d'étudiante, les sorties qui vont avec, les amis qui vont avec, etc. Eh bien, le premier hiver à Nice, j'ai cru mourir. Et je me suis dit, mais en fait, je ne me vois pas vivre là. Il faut que je trouve rapidement une solution. Et j'ai eu l'opportunité de partir à ce moment-là aux États-Unis, d'accompagner quelqu'un qui s'y installait. J'ai pris un visa de 3 mois de tourisme, sachant très bien que j'allais rester plus. Et je suis partie comme ça sur un coup de tête. Au final, je suis restée 2 ans et demi à San Francisco. Et en fait, j'ai continué dans des boutiques de vêtements.
Mais attends, mais tu parlais assez bien anglais pour pouvoir bosser directement.
Non, je baragouinais à peine. Donc, au début, j'ai fait un peu plein de petits jobs, bartender, serveuse, okay. Voilà. Et puis, j'ai rapidement été embauchée chez Guess, dans un grand centre commercial, San Francisco Shopping Center. Et mon anglais ne les a pas trop gênés parce qu'ils avaient énormément de clientèle française.
Okay.
Ils m'ont dit, tu vas apprendre sur le tas. C'est vraiment pas un truc qui les a... Les fondateurs de Guess sont français. C'est pas un truc qui les a arrêtés. Et en fait, ça s'est très bien passé chez Guess. Et j'ai fait mes armes là-bas. Et puis alors, c'est l'école américaine. C'est-à-dire que tu rentres et si t'es bon, tu montes très vite. Donc très rapidement, j'ai grimpé les échelons, entre guillemets, jusqu'à arriver à des postes très sympas. Et voilà, donc très jeune, très vite, je me suis retrouvée dans une carrière dans ce qu'on appelle le retail. Et puis, avec cette facilité, finalement, de faire ce travail où je n'avais pas besoin d'études correspondantes, de quand même bien gagner ma vie et d'avoir un boulot pas trop désagréable. Après ces 2 ans et demi à San Francisco, il y a eu le 11 septembre et j'ai dû rentrer en France. Et là, je me suis dit, évidemment, il n'est pas question que je retourne dans le sud-est. C'était soit Nice, soit la petite ville de mes parents. Enfin, voilà, pas question. Donc, je me suis dit, je vais à Paris. Et je suis arrivée à Paris où j'ai très rapidement été embauchée par Marité et François Gerbeau, qui sont des créateurs avec qui j'ai travaillé pendant, 5 ou 7 ans. Et en fait, c'était une entreprise familiale très intéressante avec ces deux créateurs passionnants parce que très doués, capricieux aussi, très, très spéciaux. Je pense qu'aujourd'hui, leur façon d'agir passerait même plus dans des boîtes actuelles avec les RH et les règles RH actuelles, en tout cas pour François. Mais en même temps, ça a été une école exceptionnelle. J'y ai rencontré certaines de mes meilleures amies. Et ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'on a toutes, on était une bande de filles, on avait entre 23 et 25 ans. On a toutes démarré dans cette boîte en même temps. Et ils avaient une qualité énorme, c'est qu'ils nous ont toutes formées. Et on a toutes pu avoir des postes très chouettes assez rapidement grâce à eux. Et donc, je suis devenue responsable de la communication interne chez Marité François Gerbeau. J'avais 25 ans.
Donc, plutôt sympa. Ouais,
voilà. 25 ans. Ouais. Dans un univers très chouette, puisque tu as 25 ans, tu es à Paris, c'est des défilés, c'est des présentations de collections à la presse, etc. Donc, c'était un job très, très sympa. Je travaillais dans les showrooms, enfin, cool. Et puis, j'ai continué comme ça pendant plusieurs années pour différents créateurs. J'ai eu, alors je ne vais pas tous les citer, mais j'ai fait que des maisons de luxe, entre guillemets. créateur ou luxe.
Dans la communication, toujours.
Non, alors j'ai ça. En fait, ça dépendait des postes. J'ai aussi beaucoup fait de retail pur, c'est-à-dire de vente sur le terrain, où j'étais ce qu'on appelle responsable de boutique. Et j'ai même été, alors c'est des termes un peu techniques, mais on dit directrice de flagship, c'est-à-dire que tu gères des très, très grosses boutiques qui sont un peu les boutiques phares de la marque dans des rues très célèbres à Paris, tu vois, où il y a quand même une grosse équipe derrière, etc. Donc, les premières années, j'ai beaucoup aimé cet univers parce que ça m'en mettait un petit peu plein la vue, parce que j'ai toujours adoré la mode. Parce que c'est joli, parce que c'est des univers extrêmement créatifs. Et puis après, c'est la vie aussi qui évolue et moi, j'ai aussi évolué. En parallèle de cela, j'ai commencé, j'ai monté mon blog. Donc, j'ai été parmi les premières à l'époque en France à avoir un blog. Et il se trouve que, bon, à l'époque, c'était pas l'influence qu'on connaît maintenant. C'était des blogs qui ne nous rapportaient, entre guillemets, rien financièrement. Ouais. Donc, on les menait forcément en parallèle d'un job. Mais il se trouve que peu à peu, les années venant, il y a les premiers partenariats qui sont arrivés sur le blog. Et surtout, alors que je travaillais toujours en tant que responsable de boutique, etc., j'ai commencé à être contactée par des marques parce qu'en fait, ce métier du marketing digital naissait. Et j'ai commencé à être contactée par des marques pour travailler pour eux. Ils recherchaient des gens capables, justement, d'écrire sur leur site web, etc. Et donc, je suis devenue rédactrice digitale à ce moment-là. Je me suis occupée de la newsletter famille de Monoprix. C'était les prémices, en fait, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, je l'ai fait, en fait. Je travaillais avec des marques comme Petit Bateau. Enfin, voilà, j'étais à la fois dans cet univers du blog famille enfance et à la fois en parallèle ce job qui était commerce et luxe.
Et les marques, du coup, elles te trouvaient via ton blog?
Oui. Okay. Oui, oui. Et voilà. Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Donc, c'était des années chargées, surtout que mes enfants étaient petits. Donc, j'avais quand même deux jobs à plein temps. Les deux activités en parallèle, au fur et à mesure des années, se sont développées pour devenir de plus en plus importantes. Et puis, est arrivé un moment où j'ai eu du mal à gérer les deux. Et où tout le monde, en fait, depuis un moment, me disait « Mais enfin, il faut choisir. » Et moi, j'étais totalement incapable de lâcher mon CDI pour me lancer à mon compte parce que ce n'est pas du tout dans ma culture familiale d'être indépendant, parce que on parle d'un métier qui en fait venait de naître. Enfin, j'avais aucune certitude que ça puisse vraiment devenir pérenne, etc. Donc j'étais inquiète parce que j'ai trois enfants, parce que plein de choses. Et en fait, ça a commencé à mal se passer dans mon dernier job dans le retail. Y a eu un changement de direction. Le changement de direction a changé complètement l'atmosphère. C'est devenu très compliqué pour moi, à tel point que j'ai frôlé un burn-out et on m'a renvoyée. On m'a renvoyée de ce poste, en plus dans des conditions vraiment déplorables, ce qui fait que je suis partie vraiment en me disant « Mais tu sais, t'as bossé pendant 20 ans dans un truc et à la fin, on t'explique que t'es bonne à rien. Ouais. » Donc, c'est hyper décevant. Accompagnée de cette lassitude, moi, peu à peu, en fait, j'ai avancé, évolué et cet univers du commerce et du luxe, il a aussi commencé un peu à me sortir par les yeux. C'était le toujours plus de chiffres. C'était tous les mois une pression inimaginable sur des objectifs chiffrés à remplir. Mon job, qui à la base était de la vente, c'est devenu un truc, je suis devenue une gestionnaire d'équipe, etc. Ouais. Donc, plus rien à voir. Pareil, moi, j'avais démarré un peu comme ça. À la fin, je devais faire des tableaux Excel à tout va. Enfin, c'est vraiment... C'était devenu un métier qui ne me correspondait plus. Et le fait de me faire renvoyer, objectivement, j'ai donné les clés pour qu'on me renvoie. Et j'attendais, je crois, que ça. Mmh. Et ça a été le coup de pied, en fait, nécessaire pour que je me lance à mon compte. Et lorsque j'ai perdu mon job, j'étais évidemment un peu inquiète. Mais en fait, pendant 15 ans, j'avais bâti, sans m'en rendre compte et sans le savoir, un réseau énorme. Et en fait, de gens qui m'appréciaient, qui avaient travaillé avec moi, etc. Et en fait, ils ont été mes premiers clients.
Parce que là, financièrement, du coup, quand tu es renvoyée, tu as quand même une période où... Je ne sais pas si tu as le chômage quand tu es renvoyée.
Ah ou... oui, bien sûr, oui, tu as okay. le chômage.
Donc, tu avais le temps
c'est
quand même de...
C'est lorsque tu pars de toi-même D'accord. que tu n'as pas le chômage.
Tu avais oui. le temps de lancer ton activité.
Oui, mais okay. malgré tout, moi, c'est un truc... ça ne me rassurait pas d'être au chômage.
Ouais.
Et donc, en fait, trois semaines après avoir été renvoyée... une de mes anciennes directrices retail m'a contactée. Elle avait un très, très gros poste dans une marque de vêtements. Et elle m'a confié le digital de la marque, un truc énorme. Donc, j'ai été renvoyée. Et trois semaines après, j'avais un contrat. Mais quand je te dis un contrat monstrueux, c'est un contrat... Donc, j'ai eu une chance pas possible.
Mmh.
Immédiatement, en fait, il n'y a pas eu de période de mou, il n'y a pas eu de remise, il n'y a même pas eu de. J'ai même pas eu à faire de prospection. J'ai parlé à deux, trois copines et hop, 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 ça s'est fait comme ça.
Oui, mais parce que justement, auparavant, tu avais quand même.
Ah, mais en fait.
Progressivement.
C'est quelque chose dont je ne me suis pas aperçue, que je n'ai pas fait consciemment. Mais en fait, pendant ces 15 années, j'ai bâti, et ça me sert encore aujourd'hui, un réseau phénoménal. Et ça, en fait, je, à l'époque, je le faisais sans aucune stratégie, évidemment. Mais, et tout part de Marité François Girbeau, parce qu'on était vraiment une équipe, je te dis, de nanas de 25 ans, qui ont toutes énormément évolué grâce à eux, et qui aujourd'hui sont toutes, parce que je les suis encore, à des postes majeurs dans leur branche et dans leur domaine. Et finalement, bah, on s'est toujours entraidés. Voilà. Il y a d'autres amis qui m'ont présenté... qui ont passé mon nom aussi. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis retrouvée à devoir me lancer, c'est aussi le moment où toutes les maisons un peu anciennes ont réalisé... Alors, les grandes maisons luxe, elles s'étaient déjà lancées dans le digital parce qu'elles étaient, évidemment, elles avaient compris qu'il fallait y être. Mais les celles juste un petit peu en dessous, qui avaient moins de budget, etc., les créateurs et tout, bah, ils n'avaient pas encore fait justement ce virage, ils avaient besoin de gens pour les aider. Et du coup, en fait, grâce à mon réseau, moi, j'ai trouvé des clients tout de suite.
Parce que ça, c'était quand ?
C'était maintenant, il y a 6 ans.
Ok. Oui, voilà. Donc pas si vieux. Mais c'est vrai que quand même, tout a changé en 6 ans.
Je te dis, les grosses boîtes avaient pris, avaient déjà des comptes Instagram, etc. Les Chanel et compagnie. Mais les créateurs, ils en avaient, hein. Mais ça ressemblait pas à grand chose. Il y avait aucune stratégie comme sur leur compte. Et ils se rendaient bien compte qu'il était temps de prendre un virage. Parfois, ils lançaient aussi seulement leur boutique en ligne. Ils l'avaient pas tous fait.
Ah oui.
Non. parce que c'est du budget, parce que c'est des structures à mettre en place, etc. Ils se focalisaient sur les boutiques physiques, enfin, tu vois.
Mmh.
Et voilà, en fait, c'est un métier dont les bouleversements ont été extrêmement rapides. Et tu vois, ensuite, là, on parle... Quand j'évoque ça, je te parle de sites de vente en ligne et d'Instagram. Et on sait que depuis, y a eu TikTok, il y a eu des campagnes qui ne se font qu'en digital. Il y a eu aussi le Covid qui fait qu'en fait, les marques qui n'avaient pas pris ce virage-là, elles se sont retrouvées vachement emmerdées. Donc, tout est allé très, très vite. Et voilà pourquoi je dis que j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai finalement été au bon moment. Voilà.
Oui, parce que du coup, quand tu fais ta bascule, donc que tu t'arrêtes ton job salarié, finalement, tu t'arrives assez rapidement à gagner à nouveau le salaire que tu gagnais avant.
Ah bah, en fait, dès ce premier contrat que j'ai évoqué avec toi, là, c'était fait. Hein.
Ok.
Donc, en fait, ça a été... Alors, ça a été rassurant, mais en fait, ce que j'ai découvert après coup, c'est que les contrats, en fait, ils durent jamais des années et des années. Souvent, tu aides à mettre une équipe en place sur le terrain. Parce qu'il n'était pas question non plus que je redevienne une employée de boîte. J'aurais pu retourner dans un CDI pour une marque ou quoi, mais vu ce que je venais de quitter, il n'en était pas question. Et puis, j'avais envie de développer aussi en parallèle d'autres activités, comme mes propres réseaux sociaux et tout. Donc, je ne voulais pas redevenir employée. Donc, finalement, moi, j'étais plutôt celle qui aidait à installer une équipe, à mettre en place une stratégie digitale. Mais après, il y a un moment où je m'en allais. Donc, pendant quelques temps, je me suis toujours retrouvée avec « Ah, j'ai des clients super, hop, ils n'ont plus besoin de moi, il faut que j'en retrouve un. » Et donc, il y a eu toujours, pendant un petit moment, ce stress, tu sais, de « Tu perds un contrat, il faut que tu en trouves un autre. Voilà. »
Et ça, comment tu le gérais, du coup, le stress de... C'est un peu aussi le lot d'énormément de métiers qui sont indépendants.
En fait, j'ai appris sur le tas. Je me suis toujours un peu inquiétée au début lorsque je perdais un contrat. Et puis, j'ai vite réalisé que... Il y en avait un autre qui arrivait derrière, tu vois. Après, il y a eu l'époque du Covid où finalement, moi, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a presque aidée, entre guillemets, cette phase-là, parce que tout le monde a eu besoin d'aide sur le digital. Donc, ça a été extrêmement porteur. Et puis après, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir une base solide de clients sur du très long terme, sur des missions stables, c'est-à-dire avec un suivi de leurs équipes, etc. J'en ai 2-3 par an qui me permettent d'avoir des revenus stables et des petites missions en plus.
Et qu'est-ce que tu proposes du coup dans tes missions généralement ? C'est tu t'occupes de la, c'est plus de la stratégie de communication ou c'est vraiment ça peut être la création, tu vois ?
Alors au début, je faisais un peu tout et j'ai même fait ce qu'on appelle du community management.
Ouais.
Et puis rapidement, j'ai arrêté ça parce que parce qu'en fait, c'était pas ce que je souhaitais faire parce que c'est extrêmement chronophage. Et puis parce qu'ayant moi-même des réseaux à animer. Au bout d'un moment, tu deviens complètement épileptique hein, si tu es trop sur, sur ton téléphone et tout. Et puis, je me suis aperçue que ma plus-value, elle était davantage dans la mise en place d'équipes, l'organisation et une vision globale de communication. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que j'étais quand même responsable de la communication dans des boîtes. Donc, en fait, j'avais à la fois cette expertise communication et commerciale par des années de retail. Donc, j'étais bien meilleure à aider à une stratégie globale qu'à être community manager. Ce que je fais finalement très bien pour moi-même, mais bon, pour d'autres, voilà.
Et... Oui, vas-y.
Et puis après, en fait, c'est des jobs où il ne faut pas oublier que les budgets sont parfois réduits, etc. Donc, oui, je sais faire des photos, donc parfois t'en fais parce que c'est plus facile, voilà. De toute façon, c'est des métiers où maintenant, t'as plus une équipe de 10 personnes pour tout faire. Ça n'existe plus. J'ai connu la mode à la belle époque où il y avait un coiffeur, un maquilleur, un photographe, un assistant photographe, un vidéaste, un assistant vidéaste et tout. Ces budgets-là n'existent plus. Et donc maintenant, les boîtes, quand elles t'embauchent, c'est un gros plus. Si tu es capable de faire plusieurs choses et si tu peux les aider, hop, je sais faire des photos, je sais faire des vidéos, voilà.
Oui, en gros, il faut quand même que tu continues en permanence à te former aussi pour être un peu couteau suisse, quoi.
Après, de toute façon, ça ressemble au digital qui ne cesse d'évoluer. Les plateformes évoluent. Il y a très peu de temps, on ne faisait pas de vidéos comme on en fait maintenant.
Ouais.
Ça reste très récent. Et alors, ayant vu cette évolution depuis le blog, je constate aussi... qu'à chaque fois, on perd entre guillemets des gens et qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Typiquement, à l'époque des blogs, il y avait des blogs qui étaient fabuleux, qui ont disparu quand Instagram est arrivé, parce que c'était des personnes qui n'avaient soit pas envie, soit pas le coup de main pour prendre des photos et s'adapter à un format d'écriture beaucoup plus concis, etc. Il en a été de même pour l'arrivée des vidéos et je pense que ça, c'est toujours comme ça. Soit tu décides à un moment donné que tu as envie d'évoluer avec les formats parce que ça te correspond plus ou moins, que tu as envie de te former. Soit tu décides que ça te ressemble moins et puis voilà.
Mais ça, c'est très vrai. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, tu vois, l'algorithme est contre moi » ou ce genre de choses. Et à chaque fois, je leur dis « Mais en fait, c'est juste que ça évolue. » Et soit tu fais le choix de suivre l'évolution, soit effectivement, tu n'évolues pas dans le même sens et du coup, ça ne marche plus.
Et puis alors, cette histoire d'algorithme, qui est en fait le truc que personne ne maîtrise, ça m'amuse toujours lorsque je vois des gens, on voit beaucoup ça en story, qui disent « Controns l'algorithme, like mon machin, enregistre mon truc. » Je pense sincèrement que c'est vain. Je pense que aujourd'hui, évidemment, les algorithmes ont un fonctionnement, mais qui est tellement complexe que c'est pas en allant enregistrer ou liker qu'en effet, tout le monde a sa petite formule secrète sur ce qu'il faudrait faire. Et en fait, non. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui se plaignent et il y a des gens qui ne se plaignent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir un compte qui fonctionne.
Oui, parce que tu t'adaptes aussi, enfin, ce que je remarque.
Alors, c'est pas que de la chance, c'est beaucoup de travail aussi.
Exactement.
Et puis, c'est peut-être une certaine créativité, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on m'entend pas dire « Oh, l'algorithme, machin », il m'arrive comme tout le monde d'avoir des posts de merde qui fonctionnent pas. C'est juste que je m'apesante. Et parfois, c'est pas un, parfois, c'est pendant plusieurs jours, pendant une semaine, ça marche moyen et tout. Sauf qu'au lieu de me dire « L'algorithme est contre moi », en fait, je continue ou j'essaye de me dire pourquoi est-ce que ça marche moins bien. Et sincèrement, la plupart du temps, c'est juste que ça a tout simplement moins plu pour plein de raisons, tu vois.
Oui, ça aussi, c'est une vraie raison. C'est que souvent, c'est pas que l'algorithme est contre toi, c'est aussi que ce que t'apportes aux gens est moins important que ce que d'autres créateurs apportent. Enfin, c'est
ça veut pas dire que c'est pas bon.
Ouais.
Ça veut pas dire que c'est pas toi. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas oublier en fait que, et ça c'est la notion qui est extrêmement difficile à comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que évidemment tu publies des choses très personnelles, donc tu aimerais que ce que tu donnes soit perçu à hauteur de l'investissement que tu y as mis, mais en fait il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un public et que finalement il faut trouver cet équilibre entre toi, ce que tu donnes, ta part de personnel, d'intime, ce que tu es capable de produire et les attentes d'un public. Et ça, c'est quelque chose... Et tout en ne se perdant pas, tout en ne se contentant pas de donner uniquement ce qu'on attend de toi, tu vois. C'est un fil ténu et il faut le trouver. Et ça implique également, dans cet exercice-là, de se remettre en permanence en question. Il ne faut jamais être assis sur ses acquis et il ne faut jamais se dire « Oh, ça fonctionne, c'est gagné ». Vraiment. Et puis, je crois qu'en plus, moi, je le prends toujours un peu comme une relation. C'est-à-dire que j'essaye toujours de surprendre, de proposer des nouvelles choses, tu vois, de me renouveler tout en restant évidemment moi-même. Mais j'essaye toujours chaque année de proposer des choses nouvelles. Parce que sinon, les gens s'ennuient à force. Bah, normal.
Non, c'est vrai. Bah, les gens se lassent très vite, mais tous, hein, on est un peu tous comme ça. Mais effectivement, on n'a pas encore beaucoup parlé de ton compte, qui est aussi une de tes sources de revenus, oui. Qui fait partie de tes palettes. À quel moment tu as vraiment commencé à le développer parce que tu avais le blog, donc après, tu as switché vers Instagram. À quel moment tu as vraiment pris ça de manière professionnelle? Tu y as dédié vraiment?
Alors, j'ai toujours été sérieuse à ce propos. J'ai toujours eu très envie que ça fonctionne. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. J'ai toujours eu envie d'en faire un truc qui fonctionne. En revanche, j'ai rapidement eu des partenariats, mais alors au début, c'était des trucs qui n'allaient jamais me faire vivre. Enfin, vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai travaillé et c'est aussi pour ça que j'ai développé des choses à côté. Et aujourd'hui, je pourrais... sincèrement, en acceptant plus de choses, etc., ne vivre que de ça, mais j'ai toujours peur que ça s'arrête. Du coup, j'ai pris la décision de ne pas devenir ce qu'on appelle une créatrice de contenu à temps plein. Ça me permet de pouvoir refuser des trucs.
Ouais, c'est un luxe.
Ça me permet... de dormir sur mes deux oreilles la nuit, tu vois. Enfin, voilà, donc j'ai pris... Et puis, peut-être qu'un jour, je serai fatiguée ou qu'on sera fatigué de moi, peu importe. Ce ne sera pas dramatique si je ne gagne plus ma vie avec ça parce que j'ai autre chose.
Mmh. Et j'allais dire, toi, je trouve que tu te livres quand même beaucoup sur énormément d'aspects, tu vois. Par exemple, tu peux autant parler de recettes que de ménopause et tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment un compte assez authentique. Comment tu mets de la distance entre ce que tu partages et qui sont des choses quand même très intimes et les réactions des gens qui peuvent parfois être très violentes. Et c'est vrai que je vois souvent d'ailleurs des messages que tu mets en disant « j'ai reçu un message que je publie pas parce qu'il est très violent » ou j'ai... Tu vois que...
Alors, souvent, non. C'est pas exact. Justement, je trouve que j'en ai peu. Et okay. Pour communiquer avec beaucoup de... Beaucoup de jeunes femmes qui font le même métier que moi, j'en ai très peu.
Okay.
Et ça, j'en suis consciente, c'est important de le savoir. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque tu reçois 500 messages par jour, concrètement, le pourcentage de choses non pas violentes, mais désagréables ou qui piquent un peu qu'on peut recevoir, c'est de l'ordre de 1%. Sauf que comme on est des êtres humains, évidemment, on reçoit que des... voilà, tu reçois plein de trucs sympas et le truc qui pique ou qui fait un peu mal, eh bien évidemment, c'est celui que tu vas partager parce qu'il t'interpelle, il peut te faire mal, etc. Et aussi, parce que finalement, quand il pique un peu, c'est qu'il y a une bonne raison et que c'est toujours intéressant d'en discuter et de se remettre aussi en question. Moi, vraiment, je crois que je pourrais remercier les gens qui ont été désagréables avec moi parce que ça m'a finalement, même si on est d'accord sur la forme, je suis toujours sciée que les gens puissent être désagréables, mais finalement, faudrait pas que ça s'arrête parce que si j'avais que des gens qui m'écrivaient que des « c'est super Elisa », j'avancerais pas. Et finalement, déjà, ça me permet de me remettre en question, ça me permet de pas me choper un melon monstrueux. Et surtout, alors tout n'est pas exact quand on t'envoie des trucs désagréables, mais parfois, sous un package pas très sympa, il y a des petits trucs qui sont pas complètement faux. Et du coup, ça te permet de te dire, ah bah écoute, ouais, c'est pas complètement faux. Donc, c'est pas très grave. Et puis, avec le temps, j'ai aussi appris, justement, quand je les partage, c'est toujours avec beaucoup d'autodérision, toujours en le prenant avec plutôt un côté humoristique, en me moquant à la fois du message, mais aussi un peu de moi-même. Enfin, voilà. J'essaie plutôt de le prendre de cette façon-là. Mais j'ai jamais eu d'injures, par exemple. Tu vois, j'ai pas eu ce genre de choses. J'ai plutôt des remises en question sur la façon dont je fais les choses, ce que je fais, etc. Donc ça, c'est le jeu, finalement, même si je pense qu'on devrait tous un peu plus y mettre les formes.
Ouais, je comprends. Et sur ce sujet, justement, de la communication digitale, je te permets de te poser la question parce qu'il y a énormément de gens qui écoutent, qui veulent lancer des projets.
Oui.
Donc, que ce soit des services, enfin, peu importe, et qui ont besoin, tu vois, vraiment de ce côté réseaux oui. sociaux, etc. Toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller vraiment, tu vois, les grandes étapes quand tu veux lancer ton projet et que tu as besoin, tu n'y connais rien, tu as besoin de mettre en place ta communication digitale?
Alors, moi, j'ai fait des formations pour des projets comme ça. Et à chaque fois, les gens qui ont des difficultés avec les réseaux sociaux, j'entends toujours les mêmes freins. Le premier, c'est « Ah, mais moi, je n'aime pas me montrer sur les réseaux sociaux. » Donc, personne n'a dit... c'est pas parce que moi, en tant que créatrice de contenu, j'ai fait le choix d'avoir un compte plutôt intime, même si finalement, on en parlera peut-être après, je montre très peu de choses et de moins en moins. Même si j'ai choisi d'avoir le ton de l'intime, etc., il n'est pas du tout nécessaire, surtout pour un compte professionnel, de tomber dans l'intime, ni même de se montrer, et encore moins d'avoir à aller faire des chorégraphies dansantes ou que ça. Non, mais c'est vrai que les gens ont toujours cette vision. Ils se disent, ah bah, pour marcher, il faut... Une fois, j'avais lu une nana un peu aigrie. D'ailleurs, elle ne s'adressait pas à moi, elle s'adressait juste tout court à ses abonnés. Elle disait, bah oui, forcément, moi, je ne me montre pas en dansant, donc ça ne marche pas. Tout était faux dans cette phrase, en fait. Et ce n'est pas se remettre en question soi-même que de dire ça. Ce n'est pas parce qu'un tel marche comme ça que... voilà. Ce qu'il faut, c'est trouver sa patte et ce qui nous ressemble. Et surtout, pas tomber dans quelque chose d'inconfortable. Il y a beaucoup de gens qui, avec l'arrivée des réels, ont rencontré une difficulté supplémentaire parce que la vidéo, ce n'est pas évident, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être face caméra, de vous montrer et alors de danser, de machin, on a toujours cet aspect caricatural des vidéos TikTok. Or, aujourd'hui, on le sait, ça reste une plateforme gratuite qui vous permet de vous exprimer. Il suffit de s'en saisir et d'en faire quelque chose qui nous ressemble. Moi, les faux coachs Instagram qu'on voit fleurir là sur les réseaux et qui t'expliquent en 3 points comment faire grossir ton compte, machin et tout, ça me fait toujours rire. Surtout quand eux ont 300 abonnés. Apparemment, ils n'ont pas capté le truc, tu vois. Et en fait, je pense que l'authenticité, trouver sa niche, avoir un message fort, clair, direct, où on comprenne de quoi il s'agit, où on peut le trouver, comment, et ensuite se présenter de façon claire, nette et précise, déjà, c'est pas mal, tu vois.
Ok. Et effectivement, oui, non, mais c'est vrai que ça libère, je pense, ce que tu dis, c'est que s'il y a un projet qui te tient à cœur, t'es pas forcément obligé de te mettre en avant, tu peux communiquer d'une façon différente, t'es obligé de suivre toutes les tendances.
Après, il est exact que moi, avec certains comptes, au bout d'un moment, lorsque ça fonctionne bien, etc., et qu'ils sont un peu plus à l'aise, il y a toujours un moment où je leur dis, bon, bah, maintenant, ce serait quand même sympa qu'on mette un peu de personnel dans tout cet impersonnel et qu'on vous présente, parce que finalement, ce qui est intéressant sur les réseaux, c'est de se rendre compte que derrière une boîte, il y a une personne. Et que derrière votre entreprise, ben, il y a avant tout un humain qui s'est lancé, voilà.
Ouais, non, je comprends. Ok, donc non, mais très bon conseil. Ok, donc ça, on note. Et il y a une bascule aussi dont on n'a pas parlé, qui est ta bascule géographique, parce que donc on en est resté à tu étais à Paris. et aujourd'hui, du coup, on est à Biarritz. Donc, quand est-ce que tu as eu cette envie ou tu vois, tu t'es posé la question, est-ce que c'était un peu concomitant avec tu quittes ton job ou pas forcément?
Alors, j'avais déjà quitté mon job à Paris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis restée très longtemps à Paris parce que j'ai mon premier enfant, mon fils, qui est... Je suis séparée de son père et je n'ai pas eu le choix de pouvoir quitter Paris à cause de la garde partagée. À la base, je ne suis pas parisienne. Je ne rêvais pas de passer toutes ces années à Paris, même si j'y ai été infiniment heureuse. Mais ça faisait longtemps que je voulais partir et que j'étais un peu attachée, entre guillemets, à cette ville. Donc déjà, il y a eu plusieurs choses. Mon fils a grandi, il a eu 14, 15 ans. Enfin voilà, les choses sont plus faciles après pour pouvoir bouger. Mon chéri, lui, c'est encore pire. C'est-à-dire que lui, il est venu rester à Paris juste pour moi. Et lui, ça faisait des années qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'on parte.
Attends, mais parce que du coup, donc, tu te sépares de ton compagnon et tu rencontres quelqu'un qui n'habite pas à Paris et qui vient à Paris.
En fait, je me sépare de mon compagnon. Je vis quelques années en tant que mère célibataire,
okay,
sans pouvoir bouger et tout. Je rencontre un mec, un gars, qui est mon chéri actuel, mon chéri tout court, et qui vient de s'installer à Paris,
okay,
parce qu'il ne trouvait pas de travail ailleurs. Mais pas avec l'intention un peu de se refaire professionnellement, etc. Mais sans aucune intention de s'installer ad vitam aeternam à Paris. Sauf que, ben, on tombe amoureux et surtout, lui tombe amoureux d'une femme qui a déjà un enfant. Voilà. Donc, il est concrètement resté à Paris juste pour moi. Et ça faisait des années qu'il voulait partir et qu'il commençait à en avoir un peu ras-le-pompon de la garde partagée, de l'ex et tout, tu vois. Et puis, en fait, est arrivé le Covid. Mais bon, donc on avait envie de partir sans savoir où, sans savoir quand, sans savoir comment.
Ah oui, il n'avait pas de...
Ouais, zéro lieu, projet, okay, rien. En plus, moi, nouvellement indépendante, et lui avec un job où typiquement, tu ne trouves pas ce job ailleurs qu'à Paris.
Ok. Oui, j'allais dire, parce que toi, en fait, ça ne posait plus vraiment de problème. Tu peux bosser de où tu veux, presque.
C'était plutôt lui, en fait, qui était devenu le problème. et puis bon, moi, avec un ex qui ne voulait pas que je déménage. Donc quand même, quand même pas simple. Et est arrivé le Covid et en fait ça a vraiment bouleversé les normes professionnelles très rapidement. On s'est tous mis à réaliser qu'on pouvait bosser en télétravail et tout, et surtout pour la boîte de mon chéri où ils étaient hyper old school, ils voulaient même pas d'une journée de télétravail, et tout à coup c'était une boîte dans laquelle il y avait beaucoup de projets comme événementiels. Donc évidemment avec le Covid, tu vois, ça a été un peu compliqué. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est là qu'il faut que tu demandes à partir. C'est le bon moment. Et lui n'y croyait pas trop. Et en fait, il en a parlé avec sa boîte. Et ils ont été OK pour qu'il parte et mais l'embaucher en tant que freelance parce qu'ils étaient très contents de son travail. Donc en fait, en très peu de temps, le problème professionnel s'est réglé pour nous. J'ai réussi à régler le problème avec mon ex-compagnon. On a réussi à trouver un terrain d'entente. Et donc, on a décidé de déménager. Quant à la destination, ce n'est pas mon choix, c'est le choix de mon chéri. D'accord. Il rêvait de s'installer dans cette région.
Ok, mais alors, vous avez fait parce que lui, il avait déjà un peu défini sud-ouest. Et après, vous avez visité un peu...
Alors, on n'a rien visité, okay. puisqu'on était en plein confinement.
Ouais.
Donc, on a commencé à passer des coups de fil et tout le monde nous riait au nez. Au nez, parce qu'en plus, les Parisiens, ils n'étaient pas hyper bien vus à l'époque, là, pendant le confinement. Et tout le monde nous riait au nez. Il n'y avait évidemment aucun logement et encore moins à distance sans pouvoir visiter. Et puis, le Covid s'est terminé. On est parti en vacances d'été en se disant « Bon, bah c'est mort. On est en juillet. » Parce que nous, on a comme on est parents, on est un peu ouais. fixé par le rythme des années scolaires. Et on s'est dit « Bon, bah c'est pas grave. On va bien prendre le temps. » Là, on passe les vacances et puis on préparera toute l'année scolaire à venir, notre déménagement pour l'année scolaire suivante. Et un soir d'été au mois de juillet, je crois que c'était 27 ou 28 juillet, il y a une dame qui m'appelle, un agent immobilier. J'avais vaguement eu son numéro par une copine, enfin un truc rocambolesque. Elle m'appelle, elle me dit bah, « J'ai une petite maison qui vient d'être construite, qui est en train d'être de finir d'être construite. Elle n'est pas encore sur le marché. Une telle m'a parlé de vous. Est-ce que ça vous intéresse ?» etc. Et en fait, sans même... Mon chéri est en face de moi, il me regardait quand même. On s'est fait comme ça. Et j'ai dit, bah, je la prends. Pas visiter, rien.
Ah ouais, ouais. Ok.
J'ai dit, bah, je la prends. J'ai dit ça. On n'avait pas de sous parce qu'on avait tout claqué dans ses vacances. Rien n'était prêt, j'avais pas prévu, enfin, et on est le 27 ou 28 juillet, quoi. Donc, on a fait l'aller-retour, on a signé les papiers, on a fait le dossier et on a déménagé en 2 semaines.
Oh, incroyable.
On a tout quitté en 2 semaines, on a loué un petit, on a vendu tous les meubles, on a loué tu sais, les camionnettes de location, on a tout mis dedans et on est venu ici. Et voilà, c'était parti.
Attends, mais oui, du coup, là, t'as pas le temps de réfléchir, en fait.
Non, juste dit... et c'est pour ça que ça fonctionne.
Ouais.
Avec le recul, quand on en reparle, parce qu'on s'est fait le déménagement à deux personnes, lui et moi, dans un immeuble parisien où tu descends tout sur le dos, tu vois.
Ouais.
On l'a fait tous les deux tout seuls, parce que, ben, on parle de l'été du Covid, tes potes, ils sont à droite, à gauche, enfin, tu vois, il y a personne.
Ouais, ouais. Attends, parce que là, de toute façon, c'était location, donc au pire, tu pouvais, enfin, tu vois, tu signais pas non plus pour un truc de 25 ans.
Ouais, mais bon, c'était... quand même,
ouais, oui.
C'est pas non plus rien.
Mais
du
revenir,
tout.
C'est quand même
les pénible. Enfants pas d'école, oui, évidemment. Rien n'est prêt, tu
ouais.
vois. Moi, j'ai jamais vu Anglette de ma vie. Enfin, voilà. Donc, on débarque ici au mois d'août. La maison n'était même pas terminée. Les proprios ont accepté de nous louer un peu avant. Et on a débarqué ici, deuxième quinzaine d'août. Et évidemment, la France entière est fermée. Donc moi, je peux pas inscrire mes enfants à l'école et tout. Et ben, c'est pas grave, on était ravis d'être là, de changer de vie. Et une semaine avant l'école, j'ai trouvé une école pour mes enfants, un lycée pour mon fils. Enfin voilà. Et finalement, tout s'est fait très bien, sans difficulté. Et encore une fois, je crois que si j'avais plus réfléchi, plus pris le temps, tout aurait été plus compliqué.
Ah, c'est marrant que tu retiennes ça de...
Ouais, et surtout, on a eu, finalement, zéro problème. L'école des filles est géniale. Le lycée de mon fils, il y a un lycée juste à côté. Il était plus disponible, il s'est retrouvé à un autre lycée. Ça lui va très bien. Tout s'est parfaitement...
Tu referais pas différemment, en fait ?
Ben, je pense que différemment, ça se passerait moins bien.
Et jusqu'à présent, donc ça, c'était étudié à l'année du Covid, c'est quoi, 2021 ?
Bah là, ça fait 3 ans, en fait.
Ok. Ouais. Et tu regrettes pas du tout ?
Ah non.
Le bilan ?
Ah non, je regrette pas du tout. En revanche, c'est pas si simple de déménager dans les faits. On est arrivé ici en plein été, évidemment, c'est magique. On est là où tout le monde veut partir en vacances. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle l'été indien fabuleux. Et puis après, arrive l'hiver. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais on s'est chopé un deuxième confinement un peu bizarre, un peu entre deux. Donc, quand tu connais personne
ouais.
et tout, tout le monde masqué. Donc, même à la sortie de l'école, moi, je ne pouvais plus dire bonjour à personne. Je ne connaissais personne. Mon fils, pareil, au lycée. En fait, le lycée, c'était une semaine sur deux en télé.
Ah oui.
Et masqué tout le temps. Donc, lui, il ne connaissait même pas la tête des autres élèves. Ça a été quand même un peu spécial. Donc, moi, pendant 3-4 mois, ça a été dur. Je me suis dit, je connais personne. En plus, je quittais une vie à Paris très installée avec toutes mes copines. Franchement, j'avais une vie de rêve. Je déjeunais à midi avec des filles. Enfin, tu vois, tout était rien. Mais rien
mais
de
ça,
rien.
Ouais, ça, j'avais posé la question parce qu'il y a énormément de gens qui disent, alors souvent dans le Sud, sans faire de généralité, mais que les gens, c'est très difficile de recréer du lien. Et il y en a même parfois certains qui remontent ou qui changent.
J'ai vu plein de gens qui sont repartis, pas seulement pour ça, mais aussi pour raisons professionnelles, parce que bah, finalement, y a aussi moins d'offres d'emploi. Enfin, voilà. Moi, mon compagnon, il a fallu aussi qu'il trouve, parce qu'il est redevenu freelance pour son ancienne boîte, mais il fallait aussi d'autres missions. C'est pas si simple. Pourquoi les gens vont à Paris? Parce que c'est quand même là que se concentrent les offres d'emploi, les boîtes. Enfin, moi, ça a impliqué aussi, depuis que nous sommes installés, que je remonte pour le travail au moins une fois par mois. Enfin, c'est tout un tas de choses. Ce qui engendre des frais, enfin bref. Donc, c'est pas si simple. Ouais. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils viennent s'installer en vacances et que le reste de l'année, ça va ressembler à leurs vacances avec le budget que tu as en vacances, tu vois. C'est pas ça. Et après, oui, il y a plein de gens qui disent ça, même à propos du Pays Basque, qui disent que c'est très difficile, on me l'avait dit. Écoute, moi, j'ai rencontré des gens assez facilement. Je crois que finalement, les réseaux sociaux, pour ça, c'est quand même une grande aide parce que forcément, tu es visible. Donc, j'ai été naturellement contactée par des personnes ici qui m'ont dit « Ah, je suis créatrice, j'aimerais bien qu'on se prenne un café ensemble. » J'ai été naturellement contactée et puis après, bah, c'est comme tout. Il y a des gens avec qui tu as une affinité immédiate. D'autres, bah, finalement, tu réalises que ce sera plutôt un contact professionnel. D'autres, que ça ne va pas devenir ta grande amie, mais que c'est une connaissance très sympa. Enfin, voilà. Le réseau, petit à petit, s'est installé sans problème pour moi.
Ok, ouais, non, mais ça, c'est important parce que... Ok, donc...
Mais je suis une hyper sociable. Mon chéri, lui, qui est beaucoup plus réservé, etc., il n'a pas trop d'amis depuis qu'il est installé ici. Ça ne le dérange pas tellement. Après, moi, j'ai plutôt, comme j'ai amené des connaissances, principalement des femmes, elles ont aussi leur chérie. On s'est fait des dîners de couple. Enfin, tu vois, les choses après se font un peu comme ça, de fil en aiguille. Mais j'ai pas rencontré ce problème.
Et du coup, oui, j'allais dire sur le côté social, donc le fait que tu déjeunes plus forcément le midi, etc. Ça, tu t'adaptes, ça t'a pas forcément...
Alors, ça me manque pas du tout, ouais. Sachant que, comme je te le disais, je remonte une fois par mois à Paris. Ouais. Du coup, c'est aussi pour moi un équilibre assez idéal parce que lorsque je remonte, je coupe le tout sur quelques jours. J'en profite pour voir des gens que j'ai envie de voir. J'en profite pour déjeuner avec des copines. J'en profite pour avoir cette bouffée d'air un peu parisien qui fait que finalement, je profite de Paris bien plus qu'à l'époque où j'y vivais. Parce que tu sais bien, quand tu vis, tu es un peu dans un rythme... je sais, moi, à la fin, je ne me faisais jamais une expo. Enfin, j'étais noyée entre le boulot, les enfants, etc. Ouais. C'est quand même très privilégié. Je suis quelques nuits à Paris à l'hôtel, seule. Donc, je peux faire des trucs.
Ouais, je comprends. C'est une bulle, vraiment.
C'est ça.
Ouais, moi aussi, quand je travaillais, je ne pouvais plus voir Paris en peinture. Et aujourd'hui, je fais la promotion à Paris. Okay. Mais je comprends très bien. Et du coup, je voulais te demander là-dessus, pour les gens, parce qu'il y a énormément de gens qui veulent changer de région ou changer de géographie, qu'est-ce que tu peux conseiller? Parce que toi, du coup, tu n'es pas forcément l'exemple, parce que le truc, c'est vraiment fait en un claquement de doigts, ce n'était pas prémédité. Est-ce que tu as peut-être des grands conseils?
Alors, moi déjà, je pense qu'il ne faut pas se focaliser. Ce que j'entends beaucoup, c'est les gens qui ont envie de partir vivre sur leur lieu de vacances parce que ça les fait rêver. Ce qui vous fait rêver l'été ne va pas forcément vous faire rêver l'hiver. Et je pense qu'il faut... tu sais, on parle beaucoup des réseaux sociaux, donc je vais évoquer ce hashtag que tout le monde connaît qui est « J'habite là où tu pars en vacances ». Et d'ailleurs, maintenant que je vis ici, moi, l'été, je m'échappe. Parce que, évidemment, l'été, dans ces régions qui sont très touristiques, eh bien, tu n'as plus la même vie ni la même façon de voir les choses. Il y a trop de monde partout. Tu as plutôt tendance à t'échapper, à aller chercher le calme. Enfin, tu vois, c'est cette ambivalence toujours. Donc déjà, je pense que quand on veut changer d'endroit, il ne faut pas se focaliser sur son lieu de vacances. Parce que évidemment que ce lieu de vacances, il vous fait rêver, vous y êtes dans les meilleures conditions possibles. Sans aucune contrainte, souvent avec des possibilités financières un peu plus larges, parce qu'on se fait plaisir en vacances et tout. Je pense qu'il faut réfléchir autrement et plutôt se dire où est-ce qu'il fait bon vivre, mais où je peux aussi, tout au long de l'année, avoir une vie stable, trouver du travail, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être préparé au fait qu'un déménagement, c'est un bouleversement non seulement personnel, mais familial, global. On perd complètement ses repères, son rythme, sa stabilité, son équilibre. Et typiquement, j'avais lu un article intéressant là-dessus, il y a beaucoup de couples qui divorcent après un gros déménagement alors que ça allait bien. Parce que justement, il y a une perte de repères et parce que les deux ne vivent pas forcément de la même façon l'acclimatation. Un déséquilibre peut se créer. Il ne faut pas minimiser le fait qu'on ne se fait pas forcément des amis en un claquement de doigts. Bon, moi, il se trouve que j'ai plus de 45 ans et je trouve que plus l'âge passe, plus c'est difficile parce que les gens ont déjà leur cercle d'intime. Ils ont souvent des emplois du temps à rallonge avec des enfants, des activités. Donc, c'est difficile pour eux de faire rentrer des personnes nouvelles. Et quand j'entends d'ailleurs les gens dire « Ah oui, mais ils sont difficiles dans cette région et tout », c'est pas qu'ils sont difficiles, c'est qu'ils n'ont pas le temps. On a tous des rythmes, en fait, de malades et ils n'ont pas besoin de vous accueillir dans leur vie, ces gens-là, en fait. Donc, l'effort, il doit venir de vous. Si on attend que les gens cherchent à devenir nos amis, on peut attendre longtemps, tu vois. Je crois qu'il faut développer des activités, pas hésiter à contacter des gens, etc. Et d'un point de vue purement professionnel, moi, ce que j'ai fait qui a bien fonctionné, c'est de me recréer assez rapidement un réseau. C'est-à-dire prendre contact avec les personnes qui finalement étaient dans mon univers professionnel. Parce que finalement, de fil en aiguille, on peut s'aider. Le bouche à oreille fonctionne très bien. On peut même se donner des plans, par exemple, lorsqu'on est indépendant pour du coworking, se retrouver pour bosser, pas tout le temps être isolé, ce genre de... Ça aide bien quand on vient d'arriver dans une région.
Non, mais en gros, oui, ce que j'entends de ton discours, c'est qu'il faut quand même être assez proactif.
Ah oui. Vraiment, hein, encore une fois, si t'attends que tout se passe et qu'on vienne te chercher, bah, tu peux attendre longtemps.
Est-ce que tu as des sources d'inspiration sur le changement de vie? Mais tu vois, ça peut être aussi du développement perso, les choses qui t'aident en tout cas à oser, à prendre des risques.
Moi, ce qui m'inspire, ce sont plutôt des comptes qui ont fait le... ou des personnes, des personnalités qui ont pris parti en changeant de vie d'aller vers des rythmes plus détendus. En anglais, on dit « slow ». Plus calme, voilà. Moi, c'est plutôt ça qui m'inspire.
Est-ce que tu en as un ou deux à partager?
J'aime bien Alice in Food.
Ok.
Typiquement ancienne styliste parisienne qui s'est installée dans ta région, dans le Perche.
Oui, et qui est ma voisine et que j'ai interviewée dans les tout premiers épisodes.
Et qui fait aussi les allers-retours, mais qui a fait un vrai choix en décidant de passer un cap important. Et voilà, ce genre de compte, moi, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et surtout, ça ressemble à ce à quoi j'aspire. Peut-être aussi parce que finalement, ce sont des femmes qui me ressemblent en termes d'étapes de vie et d'âge. J'ai eu une trentaine vraiment effrénée entre trois enfants, les grossesses, les allaitements et en parallèle, le rythme professionnel où tu essaies de bâtir une carrière. Enfin, tu vois, j'ai eu l'impression que j'ai fait comme... C'était très bien, hein, mais je suis ressortie de ma trentaine épuisée. Et là, la quarantaine, déjà en ayant des enfants plus grands, j'ai retrouvé égoïstement du temps pour moi, qui me plaît beaucoup, du temps pour lire, etc. Et professionnellement, j'ai aussi trouvé une assurance qui me permet aujourd'hui de dire non. Je ne peux pas rendre ce dossier demain. Il va me falloir une semaine. Et cette assurance fait qu'en fait, on ne me le refuse pas, tu vois. Et de voir ces gens qui finalement ont décidé d'aller vivre à la campagne pour être connectés avec la nature, pour retrouver un rythme de vie, ça m'inspire. Je suis jamais inspirée par les girl boss qui montent 25 entreprises, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, tu vois, par exemple, ça ne me fait pas fantasmer. Je suis plus séduite par une vie qui a l'air plus cool. Voilà.
Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi, qui est quel est le conseil principal que tu...
Je la refais.
Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Je crois que à un moment donné, nos rêves d'enfant, cette envie, ce petit truc qu'on a toujours à l'intérieur, c'est ce qui, à un moment donné, va vraiment te permettre de réussir le truc. Pas ces idées, tu sais, toutes faites de dans la vie, il faut que j'ai une carrière, une maison, ce genre de plan. Mais je réalise que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, à 40 ans, ont tout laissé tomber alors qu'ils avaient fait des études formidables mais qui plaisaient plus à leurs parents qu'eux pour se mettre... J'ai des exemples autour de moi de mecs qui ont tout lâché pour devenir ébéniste, tu vois. Et ça, je crois que c'est... En fait, ils ont retrouvé leur rêve d'enfant. Et je crois que celui-là, il ne faut jamais l'oublier. Parfois, dans nos quotidiens, bah, on ne peut pas réaliser son rêve d'enfant tout de suite. Mais il faut le garder bien au fond de soi. Et ce moment où on peut basculer, justement, où on peut faire autre chose. Alors, peut-être qu'on ne fera pas... On rêvait peut-être d'être astronaute. On ne sera peut-être pas astronaute, tu vois. Mais garder ce qui, finalement, fait ton essence, qui t'a toujours fait un peu rêver.
Bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Elisa.
Merci à toi.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc ton compte Instagram, Educrea.
Oui.
Est-ce que tu as d'autres, peut-être...
D'autres supports. Ouais. C'est le principal. Okay. Et c'est celui sur lequel, après, on va trouver le lien vers le reste.
Ça marche. Et voilà. Donc, je mets le lien dans la description. Merci beaucoup.
Merci.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.